Je crois, si je me rappelle bien, 12 tessons du 8e millénaire avant notre ère et 5 tessons du 10e millénaire avant notre ère.
Impatience.rsr.ch Sapristi, c'est tout un programme.
On va partir d'un minuscule bout de céramique pour raconter l'histoire des hommes en Afrique. Autant dire qu'on va vraiment faire le grand écart, Cécile Guérin.
Oui, enfin, c'est pas nous qui allons faire le grand écart. En fait, l'équipe d'Eric Huiscom fait ce grand écart depuis des années. Il est au laboratoire d'archéologie et peuplement de l'Afrique à l'Université de Genève. Il réalise des fouilles depuis 30 ans dans le pays d'Ogon au Mali pour comprendre justement l'histoire de ce peuplement. Alors, un simple tesson de céramique ne parle pas. Hein. Enfin, surtout un béotien comme nous, mais même, c'est en intégrant finalement des données de recherche, aussi bien des géologues, des préhistoriens, des ethno-archéologues qui étudient comment on fait la poterie aujourd'hui au Mali, mais également des climatologues, que là on commence à comprendre justement l'histoire migratoire, mouvementée des hommes en Afrique qui ont dû beaucoup bouger. Alors nous sommes en ce moment au tout début du néolithique, quand les hommes vont se sédentariser. Pourquoi se sont-ils arrêtés là? Comment ils vivaient? De quoi ils se nourrissaient? Premier élément de réponse grâce au plus ancien tesson de céramique découvert en Afrique. Et Eric Huiscom, professeur au laboratoire archéologie et peuplement de l'Afrique, nous rappelle comment il est tombé sur ces bouts de poterie.
Ah, c'était purement le hasard. C'est-à-dire, c'est un site que nous avions découvert il y a déjà de nombreuses années, en 1994, par 7 ou 8 mètres de profondeur, dans des ravinements. Donc on était descendu dans les ravinements d'une rivière qui s'appelle le Yamé, en pays d'Ogon, au Mali. Et un jour, j'avais décidé d'aller voir encore plus profond, dans le fond des ravinements, et j'ai vu un tesson sortir par 15 mètres de profondeur d'une érosion. Je me disais, mais enfin, ce n'est pas possible de trouver des céramiques aussi profondes, parce que nous étions déjà à 5000 ans au-dessus, à 8 mètres. Et on a fait une datation par carbone 14 d'un charbon qui se trouvait au-dessus des tessons et qui a donné le 8e millénaire avant notre ère. Donc on était bien au-dessus des tessons. Et je me suis dit, bon, on va peut-être essayer de creuser pour voir si on trouve d'autres, mais en n'y croyant pas. Et puis c'est en 2000 qu'on a fait la première campagne dans le fond de ce ravinement par 15 mètres de profondeur. Et puis on a très vite trouvé un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième tesson. On était là au 8e millénaire avant Jésus-Christ. Et puis après on a encore trouvé des plus profonds. Et on s'est dit, on va refaire la datation dans le ravin d'à côté, dans l'érosion d'à côté. Là. Et là on a obtenu des datations à 9200, 9300, 9400 avant Jésus-Christ. Et les tessons étaient encore plus profonds.
Donc c'est des tessons qui ont plus de 10 000 ans.
Ils ont plus de 10 000 ans, ils ont 12 000 ans, au moins. Ils ont au moins 12 000 ans, en tout cas, ils ont plus que 11 800 ans.
C'est ces petits tessons, là, je touche. Enfin, on peut les toucher.
Bien sûr, oui.
On ne va pas les contaminer. Quand vous découvrez ça, c'est autour des années 2000. Mmh. On est en 2011. C'est-à-dire que vous mettez 10 ans de recherche ensuite pour analyser, découvrir ou interpréter ce que veulent dire ces bouts de céramique.
Le problème, c'est que, en ce qui concerne la céramique de cette époque, elle est peu abondante. Donc on ne trouve pas beaucoup de tessons. On trouve en moyenne un tesson par 4 mètres cubes. Alors fouiller 4 mètres cubes par 15 mètres de profondeur, ce n'est déjà pas facile. Donc là, en fait, nous avons trouvé en moyenne un, à maximum deux tessons par campagne de fouille de 2 mois. Comme c'était un véritable scoop, puisque les céramiques les plus anciennes au sud du Sahara étaient datées du 4e, voire du 5e millénaire avant notre ère, on savait que dans le Sahara central, il y avait une céramique au 8e millénaire avant notre ère, mais alors au début du 10e, on était là bien avant le Proche-Orient, on est là parmi les plus anciennes céramiques au monde. On a attendu de bétonner la découverte par 5 campagnes de fouilles avant de publier les résultats. Et c'est ça qui nous a pris beaucoup d'années. C'était fouille de contrôle, puis encore une fouille de contrôle. Et puis surtout dans une interdisciplinarité, parce qu'on ne voulait pas seulement sortir les plus anciennes céramiques du monde, c'est pas très intéressant. Mais c'est dans quel contexte étaient apparues ces céramiques? Quels étaient le contexte environnemental, le contexte climatique, de quelle population? Pour essayer de refaire après un bilan global par rapport notamment à l'Asie. Pourquoi est-ce que la céramique apparaissait aussi anciennement en Asie? Au Japon, elle apparaît vers le 13e millénaire avant notre ère, Japon, Corée, Sibérie. Et puis là, on est tout au début du 10e millénaire.
Là, vous avez combien, juste pour la petite histoire, vous avez combien de morceaux de céramique? Vu que vous en avez trouvé 2 par an, vous avez fait 5 campagnes, vous avez quoi, 15 morceaux ou 10 morceaux, je ne sais pas.
On a, je crois, si je me rappelle bien, 12 tessons du 8e millénaire avant notre ère et 5 tessons du 10e millénaire avant notre ère. était couvert de larges zones désertiques entre à peu près 17 000 et 10 000, 11 000 avant notre ère. Et brusquement, vers 10 000 avant notre ère, 9 800 avant notre ère, il y a eu un bouleversement climatique assez rapide. Nos recherches montrent qu'en 2-3 siècles, on a eu un bouleversement où la végétation a repris le dessus. Et ce sont ces vastes zones désertiques qui vont se couvrir rapidement de plaines graminéennes. Et indirectement, il y a le petit gibier qui va suivre, lapin, pintade, perdrix, lièvre, petites antilopes. Et manifestement, l'homme a dû suivre et a dû recoloniser ces vastes espaces qui correspondent grosso modo aujourd'hui au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso.
Et donc les hommes colonisent peu à peu ces nouveaux milieux qui sont accessibles. Ils ont des besoins nouveaux et donc ils fabriquent des récipients en céramique.
Oui, donc nous suivons un petit peu les cultures matérielles de ces hommes. On les trouve au Cameroun, on les trouve dans la forêt tropicale, on les trouve aussi dans la forêt tropicale dans le sud du Nigeria, dans le sud de la Côte d'Ivoire, vers 13 000, 14 000, 12 000 avant notre ère, mais sans la céramique et sans les petites pointes de flèches à retouche bifaciale, donc qui ont été travaillées bifacialement.
Ça permet de justement tuer les petits mammifères.
Ah, exactement, et aussi probablement les pintades, perdrix et autres petits gibiers qu'il devait avoir à cette époque-là. Et l'homme invente simultanément, enfin il ajoute à son matériel, si l'on veut, à ses objets qu'il possédait déjà au sud, il va ajouter la céramique et ses petites pointes de flèche. Et ça c'est probablement face à cette mise en place des grandes plaines graminéennes qui devaient couvrir à l'époque tout le Mali, le Niger et probablement une partie du Sahara central très rapidement.
Pourquoi il n'a pas la céramique plus au sud, au Nigeria ou au Cameroun ?
Et là, on est dans un contexte vraiment de chasseurs-cueilleurs. Et là, manifestement, dans ces grandes plaines graminéennes, il n'y a presque pas d'arbres. On n'a quasiment pas trouvé de traces d'arbres. Il n'y a pas de charbon non plus lié, associé à ces céramiques, parce que c'était vraiment que des graminées. Donc là, pour survivre, c'est la chasse du petit gibier et aussi probablement la collecte sélective intensive des graminées sauvages. Or, pour qu'elle soit comestible, il faut savoir que l'amidon doit être cuit pour être assimilé. Et on peut penser que la céramique a été inventée à ce moment-là, à la fois pour la cuisson des graminées et aussi le stockage des graminées. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le même phénomène aussi en Asie. Et en Asie, au Japon, en Corée, en Sibérie, on a aussi l'apparition de ces petites pointes de flèches bifaciales simultanément à ces céramiques. Ça apparaît au même moment.
Donc l'innovation technologique, parce que c'est une innovation technologique là, dans ce cas-là, liée à une adaptation à l'environnement.
Absolument, et puis en plusieurs points de la planète. Et peut-être même en Afrique, mais ça nous n'avons pas encore la possibilité pour le prouver, peut-être en plusieurs points en Afrique.
Est-ce que vous continuez à travailler sur ces céramiques, à chercher par des analyses chimiques comment elles sont fabriquées, quelle est la recette pour faire, quel est le tour du potier, comment ils fabriquaient cela il y a 10 000 ans ?
Ah bien sûr, donc là on a plusieurs programmes de recherche, hein. On a avec nos collègues de Fribourg et nos collègues de Bordeaux, où notre collègue de Fribourg a analysé tous ces tessons du 10e millénaire au niveau de la pâte, hein, c'est le professeur Marino Magetti, pour voir à peu près à quelle température elles avaient été cuites, si on avait utilisé un dégraissant, c'est-à-dire si on avait ajouté quelque chose au moment de la fabrication pour ne pas que les vases se fissurent à la cuisson. Donc ça, il a mené une étude, voir aussi si les argiles étaient locales ou pas. On a une collègue de Bordeaux qui s'appelle Nadia Quentin qui maintenant essaie d'étudier toutes les argiles de la région et toutes les céramiques qui en découlent pour voir si on peut différencier les différentes carrières d'argile, non seulement du pays d'Ogon, mais dans le pays d'Ogon, de la plaine, du plateau, de la falaise, mais aussi d'autres régions voisines telles que le delta intérieur du Niger. Donc là, on continue à travailler activement sur le sujet, mais juste à Oundjougou même, c'est le nom du site où on a trouvé ces céramiques, nous avons arrêté les recherches parce que une campagne de fouilles nous permettait de trouver un ou deux tessons. Et nous sommes arrivés à ce que l'on voulait prouver, c'est-à-dire on a une céramique qui est bien maîtrisée à telle et telle époque, donc remettre des campagnes de fouilles complexes pour trouver un ou deux tessons de plus. On a décidé d'arrêter là les missions à Oundjougou. Par contre, on recherche toujours des sites néolithiques qui dateraient de la même époque et qui pourraient nous montrer les plans d'habitat. Parce que là, nous n'avons rien sur l'habitat des populations qui ont fabriqué ces céramiques il y a 12 000 ans.
C'était le professeur Eric Wiscombe du laboratoire archéologie et peuplement de l'Afrique à l'université de Genève.
D'ailleurs, pour découvrir ces habitats néolithiques, ils vont partir démarrer des fouilles au Sénégal oriental, donc juste à la frontière malienne. Je suis sûre que dans les masures, nos ancêtres, ils vont trouver plein de récits autour des poteries.
Alors là, nous étions 10 000 ans avant Jésus-Christ. Le temps d'une chanson, nous effectuons un saut dans le temps de 10 800 ans. Retour entre le 8e et le 12e siècle, toujours au Mali, en pays Dogon. Elle est toute jeune, écrit des textes et des musiques mélancoliques. Son nom, Jessica Léa Mayfield.
Infotrafic RSR.
Le trafic est dense sur les autoroutes du bassin lémanique. De forts ralentissements sont à présent signalés sur l'autoroute de contournement de Lausanne, entre la jonction de Lausanne-Blecherette et l'échangeur de Villars-Saint-Cran en direction de Genève. Sur l'axe Lausanne-Yverdon, entre l'échangeur d'Écublens et la jonction de Cossonay en direction d'Yverdon. Sur l'axe Lausanne-Genève, entre la jonction de l'aéroport et le tunnel de Vernier en direction de la France. En sens inverse, entre l'échangeur du Vengeon et Copé en direction de Lausanne. Et sur l'autoroute de contournement de Genève, entre l'échangeur de Perly et le poste de douane de Bardonnay en direction de la France.
Impatience.
Quand la céramique raconte l'histoire des hommes en Afrique, en fait, là, on va parler des femmes, Cécile Guérin.
Oui, parce que ce sont les femmes qui font les poteries, les potières. Les hommes font uniquement les poteries pour les rituels, les fétiches ou les pipes. Alors, on est en pays Dogon, au Mali, entre le 8e et le 12e siècle. Les Dogons ne sont pas encore arrivés, ce qu'on appelle les Dogons. Christelle Jean-Bourquin est jeune doctorante en archéologie préhistorique à l'Université de Genève. Elle a participé à une fouille cet été. Et là, elle a trouvé 40 000 tessons de céramique.
Il faut bien vous imaginer qu'il y a des milliers de tessons, quelquefois ils sont très petits. Quand on a de la chance, comme cette année, lors de la mission, on a découvert un dépôt avec une quinzaine de récipients complets, alors là c'est génial pour nous. On arrive à les étudier de manière très approfondie en se rapportant justement aux informations données par les études actualistes, sans pour autant dire que les céramiques sont forcément faites de la même manière qu'aujourd'hui. Mais c'est vraiment des pistes de lecture, des moyens pour nous de mieux interpréter par rapport à la réalité actuelle. Alors on va dire qu'on regarde en premier lieu quand même les décors. Mais on ne fait pas que ça. Donc on va regarder aussi les techniques de montage, de fabrication. On va essayer de voir aussi quelle était la technique de cuisson. Si on peut le faire, on peut faire des analyses pour essayer de retrouver l'origine de la matière première, c'est-à-dire l'argile. Voir également si c'est les mêmes qu'aujourd'hui ou pas.
Alors, montrez-moi ça.
Oui, on a un pot.
Il faut juste tout décrire.
Un pot qui est complet, assez petit. Et ce qu'on peut voir d'office, c'est la jointure qu'on a entre le fond du récipient, qui est un récipient à fond rond, et les premiers colombins. Donc les colombins, ce sont les boudins d'argile qui sont mis l'un sur l'autre et ensuite lissés pour faire le récipient. Il faut savoir que le tour n'est pas du tout utilisé encore actuellement, donc la céramique est montée au colombin pour faire un récipient. Et on voit clairement justement cette limite entre le fond et puis le haut de la ponce et le bord. Donc on sait déjà, première chose, que le fond a été fait en une fois et qu'on a rajouté ensuite des colombins pour faire le haut de la ponce et puis le bord. Alors je vous donne un autre exemple.
Oui.
On a sous les yeux ici un percuteur d'argile qui a été utilisé pour fabriquer de la céramique. Cette technique qu'on appelle le martelage sur forme concave est encore utilisée actuellement. Il faut vous imaginer, par exemple, qu'on fait un trou dans le sol dans lequel on met une natte et on va poser de l'argile au fond et on va percuter avec ce percuteur. On va percuter l'argile qui prendra la forme de la dépression que vous avez dans le sol. Et ensuite, on va monter des colombins, donc ces boudins d'argile qui vont être montés l'un sur l'autre. Donc on arrive à retrouver cette technique, on arrive à la déterminer sur des tessons archéologiques, car souvent, à l'extérieur du récipient, le décor de l'extérieur, eh bien, ce sont les impressions de la vannerie en fait, qui était au fond de votre dépression.
C'est pour ça qu'il y a des petits points, on a l'impression qu'il y a
Exactement, des petits creux. Oui, ouais. Des petits creux. Donc c'est vraiment la vannerie qui s'est imprimée dans l'argile, qui était encore assez molle à ce moment-là.
Donc ça, vous arrivez. Ok, je vois tout à fait votre raisonnement. Seulement avec vos 40 000 tessons, vous avez trouvé différentes techniques de fabrication et vous êtes amené à dire quoi, à raconter l'histoire de l'évolution de la technique.
Eh bien, comme ces différentes techniques de fabrication correspondent plutôt à des groupes entre guillemets ethniques qu'on connaît actuellement, on arrive à faire des cartes de répartition. Et on arrive ainsi à voir s'il y a eu des influences ou si ces populations se sont déplacées. Il faut savoir aussi quelque chose qui est très important, qui se pratique encore actuellement, c'est que la potière, lorsqu'elle se marie, elle va en fait suivre son mari dans son village d'origine. Ce qui fait qu'on a des déplacements de potières. Donc elles ont peut-être appris une technique dans une région. Si elles se marient dans une autre région, elles vont peut-être amener cette technique ou alors l'abandonner au profit de techniques qui existent déjà. Donc on essaye de retracer cette évolution des techniques, mais on regarde aussi la forme des récipients, on essaye de déterminer leur fonction. Donc en fonction des dimensions du récipient, on arrive à dire ce récipient était plutôt utilisé pour cuire la sauce ou pour cuire de l'eau. Alors ce sont toujours, on ne peut pas l'affirmer clairement, c'est des hypothèses, car on a des exemples actuels, modernes, et on essaye de mieux comprendre le matériel archéologique avec ces exemples. Ensuite, de dire que ces populations se sont déplacées de tel endroit, on ne peut pas aller jusque-là. Mmh. Ensuite, pour ces périodes, on a la chance quand même d'avoir aussi des récits historiques. On est quand même dans les périodes historiques, hein, le 8e, 12e siècle, pour le site de Sadia. On a également la tradition orale, donc notre approche, elle est vraiment pluridisciplinaire, puisqu'on a aussi des collègues qui s'occupent de récolter les traditions orales, ouais. Qui font justement de l'ethno-archéologie. Donc ouais. on essaie vraiment de combler toutes les informations, aussi avec des géologues qui étudient le climat. Et on remarque effectivement, ça c'est pas une première, hein, que le climat a beaucoup influencé les déplacements de population, mais également justement les problèmes politiques liés aux razzias ou aux guerres qu'il y a eu en fait pendant ces périodes.
Et vous avez fait comment avec les tessons dont vous ne saviez pas, vous avez trouvé finalement ?
Alors j'ai une hypothèse, donc j'ai repris aussi des rapports de mission qui n'avaient pas forcément été publiés, mais qui parlaient d'une technique qui s'appelle la technique du montage en anneaux. On a décidé d'aller faire une enquête, vraiment une très petite enquête, dans le village de Sadia actuel, et on a documenté un montage de céramique qui justement utilisait cette technique du montage en anneaux. On a acheté aussi des récipients qui étaient réalisés par cette potière. Et le but, c'est de les casser, ces récipients, malheureusement, pour voir justement quelles sont les traces qui sont laissées. Est-ce qu'on a une épaisseur de paroi qui est différente à certains endroits ? Comment est la structure de la pâte ? Est-ce qu'on a des marques de percussion ? Donc, on a quand même plusieurs indices. Donc là, je vais essayer de voir maintenant avec ces céramiques si les tessons que je n'arrivais pas à identifier pourraient avoir été montés avec cette technique du montage en anneaux.
D'accord. Donc, vous cassez du neuf pour comprendre l'ancien.
Oui, exactement. Mais vous en faites pas, j'en ai aussi gardé une pour mettre chez moi. Je la trouvais tellement belle que...
Elle en a gardé une, mais une d'aujourd'hui,
oui.
On est d'accord. C'est donc Christelle Jean-Bourquin, merci à elle. Elle est doctorante en archéologie préhistorique. Justement, Cécile, les 40 000 tessons, plus la quinzaine de très anciens tessons du 10e millénaire, ils se trouvent où maintenant ?
Ils sont, tout le matériel archéologique reste sur place, au Mali, et notamment les plus anciens tessons sont dans un coffre-fort. Ils ont une valeur inestimable.
Cécile, en ce moment à Paris, les Dogons sont à la une, avec une exposition du musée du Quai Branly. Et vous en avez pas parlé ?
Mais volontairement, Joanne, parce que cette exposition, figurez-vous, semble accumuler tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de trafic d'œuvres d'art. La commissaire de l'exposition est antiquaire, elle ne fait aucune référence aux recherches scientifiques qui permettent de comprendre le domaine des les Dogons, justement. Et pour 80% des pièces venant de collections privées, il y a un doute certain, voire un certain doute sur la provenance. Vous voyez ce que je veux dire ? Nulle information sur l'acquisition des œuvres, autrement dit, pas de quoi en parler chez nous.
Voilà, c'est dit. Merci Cécile Guérin. À suivre dans impatience le Festival de robotique.